le magazine des Nations Unies.
Processus électoral en RDC, le Conseil de sécurité tape du poing sur la table et met en garde tout ce qui empêcherait le bon déroulement du processus. Maguen revient sur le contenu du communiqué de l'organe exécutif de l'ONU dans cette édition. Et puis Kinshasa l'appelle la tranquillité sont des denrées rares. La MONUSCO sensibilise, coup de projecteur donc sur la commune de Matete, présentée dans l'opinion comme l'un des creusets du banditisme urbain. Réforme de la police nationale congolaise, l'heure est au bilan à mi-parcours. C'est en tout cas le sens du séminaire organisé avec l'appui technique et financé de UNPOL, la police de la MONUSCO. Et l'un des principaux axes de cette réforme, c'est la formation. Dans cette édition, vous suivrez donc, en plus de l'invité de Maguen, en la personne du général Ekuka, un reportage de la fin de la première session de formation de base de l'école de formation de Kasangulu. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU promet d'agir en conséquence contre tous les acteurs politiques dont les prises de position bloquent l'application de l'accord du 31 décembre et la tenue des élections en République démocratique du Congo. Nous sommes donc dans ce studio avec Jean-Pierre et Lali Coco. Jean-Pierre, vous allez nous en dire davantage? Bonjour.
Bonjour Tina, c'est avec beaucoup de fermeté que le Conseil de sécurité de l'ONU met en garde tout ce qui entraverait le processus démocratique en RDC. Dans un communiqué publié lundi 30 octobre 2017 à New York, le président du Conseil de sécurité affirme que la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs sont en face d'un risque accru d'insécurité et d'instabilité. C'est pourquoi François Delattre appelle tous les acteurs politiques à rester calmes et à renoncer à la violence. Par ailleurs, le Conseil insiste sur la nécessité pour la CENI de publier sans tarder le calendrier électoral, et ce, conformément au consensus trouvé à la signature de l'accord du 31 décembre. Et pour le Conseil, cet accord représente une feuille de route viable vers la tenue des élections présidentielles et législatives inclusives, pacifiques et démocratiques. Il faut dire, Tina, que le communiqué du Conseil de sécurité fait suite au rapport moins rassurant de la situation générale du pays, rapport présenté le 19 octobre dernier par Maman Sidikou, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC.
Merci Jean-Pierre. Autre chose, une centaine de leaders communautaires responsables de la municipalité de Matete ont pris part samedi dernier à une matinée d'échange sur la culture de la paix, ce samedi donc dans la maison communale, une initiative du comité local de développement de Matete avec l'appui de la section des affaires civiles de la MONUSCO. Jean-Pierre Lalicoco a assisté à la cérémonie. Je vous propose de suivre son reportage.
Cette partition de la compagnie théâtrale Molende résume la nature et l'objet de cette matinée d'échange dans cette commune, présentée dans l'opinion comme l'un des creusets du banditisme et de la criminalité dans la capitale. Koudia Félix, coordonnateur du comité local de développement de Matete, met en exergue l'importance de la paix dans un processus électoral.
Au regard des enjeux électoraux en vue, la population est appelée à participer à ce processus dans un climat de calme.
Ensuite, les échanges organisés en Carrefour ont débouché sur une mise en commun des recommandations. Maître Marie-André Mouila, des Toges Noires et facilitateur de la rencontre, explique.
Les Carrefour ont travaillé autour de quatre thèmes: la paix dans l'homme, la paix dans la société, la paix dans l'environnement, la paix au niveau de l'État. Il y a eu des recommandations. Le respect des droits de l'homme, le droit au loisir, le droit à la paix.
Et pour Wani Lumago des Affaires Civiles et de la MONUSCO, l'aspiration à la paix à Matete est réelle.
Ils sont venus pour dire à Matete, nous voulons renforcer la paix, parce que de plus en plus, les gens sont en train de perdre le sens de paix. Sans la paix, on détruit notre pays. Effectivement, vous voyez que le pays est en train d'être détruit parce que nous n'avons pas la paix totale.
Oui, promouvoir la paix à Matete, une aspiration et surtout un défi au regard de l'immensité et de la tâche et de la détermination des leaders communautaires.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'ONG Elaïs a organisé mardi dernier à Kingaboa, dans la commune de Limete, avec l'appui de l'ONG américaine Freedom House et de la section des affaires civiles de la MONUSCO, une séance de renforcement des capacités d'au moins 70 membres des 6 comités électoraux de paix en technique d'analyse, de médiation de conflits électoraux. Freedom House met en œuvre un projet basé sur l'approche communautaire de gestion des conflits liés aux élections. Pour en parler, encore une fois, Jean-Pierre Elaïs Coco reçoit pour nous le directeur en pays de cette ONG américaine, Monsieur Touré Amourlaï. Suivez leur entretien.
Monsieur Touré Amourlaï, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes directeur pays de Freedom House. Nous assistons à cet atelier qui concerne justement le renforcement des capacités des 6 comités électoraux de paix en technique et d'analyse. Est-ce que vous pouvez présenter avant tout votre ONG?
Freedom House est une organisation non gouvernementale américaine qui a 75 ans d'âge, donc c'est une des doyennes des organisations qui travaillent dans le domaine de la promotion des droits humains et de la démocratie. Nous sommes ici en RDC avec le soutien technique et financier de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, justement en travaillant sur deux volets essentiels, les élections et puis les droits humains, puisque le titre même du projet, c'est promouvoir les élections, la justice électorale, les droits humains en RDC. C'est un projet de 3 ans qui va se poursuivre jusqu'en mars 2019.
On est ici dans un atelier de renforcement des capacités. Quel est justement votre apport à cet atelier?
Oui, pour le volet élection, justice électorale de notre projet, nous avons mis en place un programme qui vise à prévenir et à gérer les conflits électoraux. Donc dans ce cadre-là, nous travaillons dans 6 provinces de la RDC. En plus de Kinshasa, il y a le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Haut-Katanga, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu. Et dans ce cadre, depuis l'année dernière, nous avons commencé la mise en place de comités électoraux de paix, qui sont donc des comités installés au sein de communautés à la base, composés de 10 membres choisis selon leur représentativité et leur respectabilité, que nous avons formés également sur des thématiques pertinentes pour le travail que nous attendons des membres de ce comité, c'est-à-dire donc connaître un peu le contexte et le cadre électoral, apprendre comment faire la gestion des conflits électoraux. Et donc ce comité pour Kinshasa, nous en avons 19, c'est-à-dire 190 citoyens installés dans 19 localités quartier ici à Kinshasa, qui travaille depuis déjà une dizaine de mois. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre d'une collaboration avec le Bureau des Affaires Civiles de la MONUSCO pour justement apporter plus de capacités à ce comité électoral de Kinshasa. Et donc c'est une collaboration que nous appelons de tous nos voeux et nous sommes très contents que cela se matérialise parce que c'est la preuve que la communauté internationale à travers ses acteurs sur le terrain peut collaborer de façon convergente afin d'apporter un appui utile aux populations. Et, n'est-ce pas, il est dommage que parfois on duplique les initiatives ou même que les initiatives puissent quelque part se bousculer. Là, c'est un exemple de collaboration qui permet de mutualiser les moyens, les intelligences et également au bénéfice de nos populations.
Vous intervenez ici au moment où la RDC est engagée dans un processus électoral qui pourra peut-être déboucher, on ne le souhaite pas, à des conflits. Qu'est-ce que vous préconisez pour aider ces pays à sortir d'une bonne façon de ces élections? Qu'est-ce que vous préconisez?
Oui, mais justement, notre projet est notre réponse spécifique justement à ces questions. Par rapport à l'histoire du pays, il y a des risques que dans le cadre du processus électoral, il y ait des conflits qui surviennent. Mm-hmm. C'est pourquoi nous travaillons très clairement ici sur la prévention et la gestion des conflits électoraux. Mm-hmm. Et notre approche ici aussi est très informée, puisque notre approche est une approche à la base, au sein de communautés à la base. Parce que bien entendu, il y a le contentieux électoral qui peut se faire devant les juridictions, mais parfois les élections ont un impact difficile sur les populations, dans les quartiers, dans les villages. C'est pourquoi cette approche communautaire permet de travailler au sein de chacune de ces localités, au sein de chaque village, en sélectionnant des citoyens respectés, écoutés, pour justement parler à leurs concitoyens, leur donner de l'information et agir de façon préventive, n'est-ce pas, en urgence pour désamorcer les risques de conflit.
Et donc, vous ne vous adressez pas aux leaders politiques?
Ah, mais bien entendu, puisque tous ces partis politiques sont représentés également au sein de ces communautés à la base. Alors, si nous travaillons avec les communautés à la base, c'est à travers toutes leurs composantes. Tout à l'heure dans la présentation, ma collègue a bien dit que les citoyens, dans la composition des comités électoraux de paix, ont tenu compte de la diversité générationnelle, n'est-ce pas, la question du genre, également la question des obédiences politiques. et n'est-ce pas, la chefferie traditionnelle est impliquée également, ainsi que les corporations. Donc c'est une approche, et n'est-ce pas, qui vise ici à préserver les populations pour qu'elles puissent passer de façon normale, ce qui constitue le processus électoral et qui est en fait une des étapes normales dans la vie de toutes les nations. Et malheureusement, dans certains de nos pays, c'est des situations difficiles. Nous voulons en faire juste des étapes tranquilles, apaisées et non violentes.
Monsieur Touré, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Nos nouvelles en plus bref, hein, des classes temporaires pour les élèves de Kananga et de Chikapa, dont les écoles ont été détruites pendant les violences au Kasaï. C'est en tout cas une initiative de l'UNICEF en œuvre depuis plus de deux semaines. Yves Villemot, en charge de la communication au bureau de l'UNICEF RDC à Kinshasa, l'a confirmé en début de semaine à Radio Tapi. Ces classes temporaires consistent en des tentes et sont appelées à accueillir des centaines d'élèves. Environ 400 établissements scolaires ont été détruits pendant les violences dans la région du Kasaï. De l'enseignement à la lutte contre le VIH-SIDA, il n'y a qu'un pas. Le taux de prévalence, toujours haut, dans le Maniema, avec 4,6%. Cette province fait ainsi partie des priorités dans le plan d'action de l'ONU-SIDA-RDC au cours de trois prochaines années. C'est son directeur pays, Marc Saba, qui l'a déclaré mardi 31 octobre 2017, après sa rencontre avec l'autorité provinciale locale. Nous avons discuté des appuis futurs pour renforcer la lutte au niveau de la province et nous avons sollicité des autorités de la province un engagement. Et nous, au niveau de l'ONU-SIDA et l'ensemble de co-sponsors, nous allons continuer à renforcer notre appui au niveau de la province, a souligné en substance le directeur pays de l'ONU-SIDA en République démocratique du Congo. Enfin, la FAO poursuit son assistance en faveur des déplacés de Kikwit. C'est depuis le 16 octobre dernier que cette assistance a démarré en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Et à cette occasion, 3700 déplacés ayant fui la crise au Kasaï ont bénéficié d'un tronc agricole, soit 4,1 tonnes de semences, vivrières de maïs et de niébé. 7 kg de semences maraîchères et 9000 outils aratoires. L'objectif de cette assistance, précise l'agence dans un communiqué daté du 31 octobre, c'est en tout cas d'appuyer la relance des activités agricoles, de redonner l'espoir et la dignité aux ménages qui ont tout perdu lors de la fuite.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le processus de la réforme de la police nationale congolaise, PNC, est en œuvre depuis 2011. Du 26 au 27 octobre 2017 dernier, une cinquantaine de responsables à divers niveaux de ce corps ont fait le point de ce processus dans un séminaire organisé avec le concours technique et financier de la police des Nations Unies, UNPOL. En marge de ce séminaire, le commissaire divisionnaire adjoint, Jean Romial Ekuka Lipopo, coordonnateur national de la cellule de la réforme de la PNC, s'est entretenu avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur le commissaire divisionnaire adjoint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordonnateur national de la réforme de la police nationale congolaise. Depuis quand cette réforme est en cours?
La réforme est en cours depuis pratiquement 2006, c'est-à-dire de manière générale depuis que la nouvelle police a été mise en place. Lorsque les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, la population de la République démocratique du Congo et nous-mêmes les policiers qui avons commencé à travailler, nous avons remarqué que ce que nous produisions comme attendu de sécurité n'allait pas dans le sens que la population et les autres parties prenantes le souhaitaient, alors et alors seulement nous nous sommes dit il faut que nous allions dans la réforme de la police nationale congolaise.
Avec quel objectif précis?
Avec comme objectif d'améliorer le service que nous devons rendre à la population ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme pays pour y habiter, c'est-à-dire la protection des biens et des personnes tous azimuts.
C'est autour de quel axe se porte cette réforme de la police nationale congolaise?
La réforme de la police nationale congolaise porte sur l'ensemble de tous les axes. Mais le problème premier, c'est quoi? Ce que le policier sache lui-même, ce qui est attendu de lui comme service à donner à la population. Ça, c'est le premier axe. Donc, le changement de mentalité au niveau de la population pour qu'ils sachent qu'il est un outil important de la population et que beaucoup est attendu de lui. Le tissu économique, le développement économique se noue autour de l'action de la sécurité. Donc ça, c'est un premier élément. Il faut que le policier prenne conscience de cela. Il faut également que la population prenne conscience que le policier qui est devant lui est un élément sorti de la population, mais qu'il faut lui donner les moyens, qu'il faut lui donner une formation, qu'il faut lui donner beaucoup d'éléments pour que lui puisse travailler à la satisfaction de besoins de sécurité que la population demande. Donc, les axes sont innombrables, mais de manière sérieuse, nous, dans le cadre de la réforme proprement dite, nous avons d'abord ce que nous appelons la mise en œuvre. Comment opérer cette réforme? Quels sont les services opérationnels qu'il faut mettre en place? 3, la formation, il faut la donner pour que le policier change. Ensuite, l'appui et gestion, il faut donner des éléments, il faut donner les moyens. Et ensuite, le policier doit être redevable vis-à-vis de la population, devant les parties prenantes, et dire ce qu'il fait, comment mène-t-il ses enquêtes, comment décocher les services pour l'ordre de la population.
Alors si on vous demandait de faire un petit bilan, vous avez dit que le processus a commencé en 2006, nous sommes aujourd'hui en 2017, est-ce que vous avez peut-être une idée sur un bilan à faire?
Le bilan est largement positif. Le cadre stratégique à long terme parle de 15 ans, mais nous n'en sommes qu'à 5 ans pratiquement pour le moment. C'est le premier pacte, le plan d'action quinquennal. Donc, en 5 ans, nous avons énormément évalué. En termes d'abord de formation, j'ai parlé des innombrables formations que nous avons eues ici. D'abord, dans un premier temps, c'était des renforcements de capacités. Mais nous sommes en train d'évoluer. Là, nous sommes en train de construire l'académie de police qui va devoir former tout le monde, c'est-à-dire les commissaires supérieurs, les commissaires divisionnaires dans les formations initiales, les formations continues, les formations spécialisées. Nous avons des écoles que nous mettons en place également. Donc nous évoluons déjà dans les structures et les infrastructures pour la formation. Le matériel, nous en avons énormément. Nous avons à l'Est, par exemple, je parlais d'une réunion que nous avons eue avec les partenaires techniques et financiers pour évaluer tout ce qui a été fait. Nous avons construit des bâtiments de police de frontières, nous avons construit des bâtiments de police lacustre, nous avons donné des canons à la police lacustre, nous avons doté de matériel informatique à nos unités à l'Est. Nous avons construit la PDP, la police de proximité à Mbujimayi. Nous avons construit la police de proximité à Lubumbashi. Nous avons équipé ces polices. Au niveau de Lubumbashi, vous avez un grand bâtiment à 2 niveaux, qui est le commissariat. Vous avez 4 sous-commissariats, où il y a le matériel de moto, où il y a le matériel informatique. Tout le monde est là et nous avons même des véhicules dont nous leur avons doté. À Lubumbashi, c'est la même chose. Alors, au niveau du travail quotidien, nous avons, par exemple, tout ce que nous sommes en train de mettre en place dans la classification des emplois de la police. Nous sommes en train de mettre en place toutes les procédures RH. Nous sommes en train de former des mécaniciens. Nous sommes en train de mener une politique salariale. Nous sommes en train de préparer une politique de logement. Car les policiers doivent loger en même temps avec la population dans le cadre de la police de proximité. Sauf les unités d'intervention qui, elles, sont habilitées à rester dans une caserne pendant le temps du travail. Tout ça, nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est-à-dire que nous avons évolué. Le travail est grand. N'est pas encore très très étoffé parce que nous ne sommes pas qu'à pratiquement 5 ans, mais nous sommes en train d'évoluer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réforme est coordonnée, nous savons ce que nous voulons, elle est concertée avec les partenaires et elle est ordonnée.
Concertée avec les partenaires, quel est le rôle que jouent notamment la MONUSCO et UNPOL?
L'UNPOL et la MONUSCO, ce sont des partenaires techniques et à certains égards, ils s'avèrent financiers également. Ils nous accompagnent dans la réalisation effective de nos projets. Nous nous mettons ensemble, nous nous concertons à travers le CCRP, le comité de suivi de la réforme de la police, où tout est conçu, nous identifions les projets et nous appelons les partenaires, à commencer par le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui est notre partenaire privilégié. Nous appelons les autres partenaires, notamment l'UNPOL, notamment la MONUSCO. Nous nous mettons ensemble et nous voyons ensemble ce que nous devons faire pour pouvoir réaliser ces projets sur terrain. Et la MONUSCO nous aide énormément, notamment dans le transport, nous aide énormément dans la viabilisation des concepts, nous aide énormément dans l'organisation, par exemple, des ateliers comme celui-ci, nous aide énormément dans beaucoup de choses. Vraiment, la MONUSCO, l'UNPOL, le VIOLPOL, qui est vraiment le volet même police, nous aide énormément pour la clarification du métier de policier. Et en période électorale, l'UNPOL, MONUSCO nous a aidé pour le recyclage de nos unités de la Légion nationale d'intervention et des groupes mobiles d'intervention.
La grande difficulté, c'est la non-mise en œuvre jusque-là de la loi de programmation de la réforme de la police. Qu'est-ce que vous en dites?
Effectivement, c'est l'outil qui doit permettre de pouvoir booster cette réforme. C'est-à-dire, c'est la quote-part du gouverneur République démocratique du Congo. Cette loi de la programmation qui a été acceptée par tout le monde, qui a été votée, qui a été promulguée. Nous attendons son application parce que sans cela, ce n'est pas évident. Le gouvernement peut intervenir de temps en temps de manière sectorielle, notamment pour l'appui à la viabilisation du site de la CAPOL. Mais si on met en pratique et en application cette loi de programmation, tout est budgétisé là-dedans et toutes les activités dont nous nous sommes mis d'accord sont budgétisées là-dedans. Je crois que la réforme dans son application au niveau du gouvernement n'en sera que plus ordonnée.
Merci, monsieur le commissaire du Jeune Radio.
Merci, merci beaucoup.
Police nationale congolaise encore, l'un des axes de la réforme, c'est la formation. La toute première session de formation de base des policiers de l'école de formation de Kassangoulou s'est clôturée mardi 31 octobre 2017 au cours d'une cérémonie officielle présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. Honoré Mtenga Kalala était dans la suite de la police de la MONUSCO et a couvert cette manifestation pour le compte du magazine des Nations Unies.
Tous les hauts gradés de la hiérarchie de la police nationale congolaise se sont donné rendez-vous à l'école de formation de police de Kassangoulou. Angoulou ce mardi 31 octobre 2017, du commissaire général à l'inspecteur général, en passant par le directeur général des écoles de formation et des commissaires provinciaux du Congo central et de Kinshasa. Le commandant de l'école, le commissaire supérieur principal, M. Patrick Idouma, rappelle ici le contexte de la cérémonie.
Le 21 juin 2017, l'école de police de Kassangoulou avait accueilli 300 policiers, dont 65 femmes, en provenance de la ville congolaise de Kinshasa, pour une formation de base accélérée d'une durée de 3 mois. La formation a démarré officiellement le 28 juin 2017. Le 24 module retenu par la direction générale des écoles de formation, avec un volume horaire de 464 heures, dans un bloc programme destiné à cette formation, ont été entièrement enseignés par 52 formateurs retenus.
Et c'est le 28 septembre 2017 que cette formation a pris fin avec 246 lauréats, dont 56 femmes. Pour le directeur de l'école, l'objectif a été atteint.
L'école de police de Kassangoulou, qui a eu l'honneur de former ces policiers qui sont devant vous maintenant, affirme solennellement sans tête d'être contredite que l'objectif fixé par la hiérarchie pour la formation a été atteint.
Le directeur général des écoles de formation, le général Kanyama, partage le même sentiment.
Nous pouvons être fiers d'affirmer que cette session de formation tombe à point nommé et nous permet de renforcer les effectifs existants dans la lutte contre les multiples violences urbaines perpétrées ces derniers temps, notamment les coulounas, les manifestations violentes, les crimes organisés et autres actes terroristes.
Du côté des partenaires, le ton est également la satisfaction. Le général Ismaël Sarr de la police de la MONUSCO, Yann Paul.
Mon premier commentaire est que j'ai assisté à une cérémonie qui a été planifiée et conduite de main de maître, ce qui démontre si besoin en était tous les objectifs que nous avions envisagés en planifiant justement cette formation de 300 policiers en 3 mois. C'est un défi, un challenge qu'il fallait relever et nous l'avons réussi. Et je saisis cette occasion pour dire toute ma fierté et toute la fierté de la composante police de la MONUSCO. Cette collaboration va continuer dans le temps et dans l'espace parce que tout simplement elle entre dans le cadre même de l'exécution du mandat de l'ONU que nous avons l'honneur de mettre en œuvre en République démocratique du Congo. Particulièrement à la résolution 2348 du Conseil de sécurité qui nous confie entre autres tâches de procéder au renforcement des capacités de la police nationale congolaise pour en faire une institution professionnellement crédible, respectueuse des droits de l'homme et des standards internationaux.
Pour sa part, partenaire financier de cette formation, la JICA, coopération internationale japonaise, est disposée à poursuivre son appui à la formation au sein de la police nationale congolaise. Cependant, le plus dur reste la mise en application de la formation reçue, d'où cet appel du commissaire général de la PNC, le général Dieudonné Amouli.
Dans la population, je vais te demander, car l'agent de police est le quartier par excellence de l'ordre public et de la sécurité des personnes.
Il faut noter que des prix de UN Paul ont été remis aux trois meilleurs lauréats de cette session.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
L'élection de la RDC comme membre du Conseil des droits de l'homme, c'est en tout cas la question d'un journaliste de Goma, Abdoulaziz Thioy, directeur ad intérim du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, lui répond.
C'est Guilhem Baloumé pour Zoomin TV et VOA News. Ma question s'adresse à Monsieur Abdoulaziz Thioy. En fait, malgré toutes ces exactions des droits de l'homme, la RDC a quand même figuré dans les conseils des droits de l'homme de l'ONU. Alors, je voulais juste savoir, est-ce que le fait que la RDC soit figurée dans ces conseils des droits de l'homme, est-ce que ce n'est pas une façon de se moquer de la population congolaise?
C'est vous qui le dites, pas moi. Ce que j'ai dit, simplement que je constate que ça ne vous a pas échappé que la RDC a été, quand même, il faut le dire, démocratiquement élue. Parce que c'était une élection par les États membres, démocratiquement élus, au niveau de l'Assemblée générale. Les États membres ont décidé d'élire cette élection. Nous espérons véritablement qu'elle va jouer un rôle catalyseur pour un meilleur respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le pays a pris souscrit à des engagements et ces engagements deviennent beaucoup plus affirmés à travers son élection au Conseil des droits de l'homme. Devenir un État membre du Conseil des droits de l'homme implique également des devoirs. C'est ça que je voudrais surtout souligner. Et les États élus se doivent d'observer les normes les plus strictes en matière de promotion et de défense des droits de l'homme, de coopérer pleinement avec le Conseil et sont soumis à l'examen périodique universel que vous connaissez au cours de leur mandat. Ce sont plutôt des éléments intéressants. Enfin, il convient de rappeler que l'élection n'est pas humiliable. Ce n'est pas un satisfecit qui est décerné à un État. Je voudrais juste vous rappeler qu'il est possible qu'un État puisse être suspendu. La Libye est là. La Libye a été suspendue. Quand il y a eu une détérioration générale de la situation, l'Assemblée générale a voté et décidé de suspendre la participation de la Libye comme membre du Conseil des droits de l'homme.
Magazine des Nations Unies, portrait d'usine.
Bonjour, je m'appelle Polydor Basunga Nyuki. Je suis marié, père de trois enfants. Comme fonction, je suis technicien, ingénieur technicien. Je suis à la radio Okapi. Mes fonctions, je suis technicien de studio. Et mes tâches journalières ici à la radio Okapi, j'ai fait la production et très très bientôt là, je ferai la diffusion. Avant la radio Okapi, j'étais à la radio Parole Éternelle. Donc après les études, je suis passé à la radio Parole Éternelle, là où j'ai fait 11 ans. Je commençais comme OPS, opérateur de prise de son. Après, chef d'antenne. Et ma dernière tâche là-bas, c'était le DIPRO, donc directeur des programmes. Mes temps libres, souvent je suis à la maison. J'aime passer du temps à la maison avec les enfants et bonne partie aussi à l'église. Ce que je préfère comme musique, c'est la musique chrétienne, comme on dit, particulièrement le groupe Gaël. Comme sport, je préfère le football et je soutiens. Je suis supporter des FC Renaissance du Congo. Ce que je préfère comme nourriture, le pondou. Mes projets d'avenir après la radio Okapi, je compte faire la théologie. Salut tous les auditeurs de la radio Okapi et on est là.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Comme il est de coutume dans ce magazine, nous proposons quelques agendas ou quelques dates importantes à noter dans vos calepins. Alors, le 6 novembre, ce sera la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Le 7 novembre, c'est la journée internationale de l'écrivain africain. Et le 8 novembre, c'est la journée mondiale de l'urbanisme. Voilà, c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama. À la mise en onde, héritier Sidi Akala, Honoré Misenga Kalala était au reportage, également à la réalisation, Jean-Pierre Lali Coco à la coordination et Martin Sébou Jangoué l'a supervisé. On se dit à très bientôt sur Radio Okapi. Au revoir.